Radio Prague, les informations.
Les députés tchèques ont reporté le vote de la loi sur le partenariat enregistré des personnes du même sexe à mercredi. Ils ont en revanche adopté une nouvelle loi relative aux services sociaux et un amendement à la loi sur la violence domestique. Une première foire de l'emploi en République tchèque se déroule à Ostrava. Aucune décision n'est tombée ce mardi à la Chambre des députés à propos de la loi sur le partenariat enregistré des couples homosexuels. La Chambre a reporté le vote à mercredi. Rappelons qu'il y a un mois environ, le président de la République, Václav Klaus, avait opposé son veto à la loi en question, adoptée après de nombreux échecs par les deux chambres du Parlement, en la qualifiant d'une erreur tragique. 101 voix des députés sur un ensemble de 200 sont nécessaires pour que le texte soit adopté malgré le veto présidentiel. Ce nouvelle loi sur les services sociaux qui donnera aux personnes handicapées une plus grande liberté dans le choix des soins qui leur sont offerts. Les députés ont également donné leur feu vert à une protection plus importante des victimes de la violence domestique. Il s'agit en particulier de la possibilité d'expulser les auteurs d'actes de violence du domicile. Le ministère tchèque des Finances a envoyé à Bruxelles une demande de prolongation du délai pendant lequel le pays peut conserver les 5% de TVA sur certains services. Cette période pourrait être prolongée jusqu'à 2010 et concerne par exemple les travaux de rénovation des appartements, les travaux ménagers et les soins à domicile. Près de 700 personnes ont participé ce mardi à la foire internationale de l'emploi organisée pour la toute première fois en République tchèque dans la ville d'Ostrava en Moravie du Nord. Une quarantaine d'entreprises, agences et bureaux de travail tchèques et étrangers y proposent des postes vacants en République tchèque et dans les pays de l'Union européenne. La manifestation se poursuit mercredi. 6 enfants irakiens souffrant des maladies cardiaques et soignés pendant 3 mois en République tchèque sont retournés dans leur patrie. Dans le cadre du programme humanitaire Medevac, ils ont pu être opérés à l'hôpital de Prague-Motol. Le réalisateur français Claude Lelouch et l'actrice italienne Claudia Cardinal seront parmi les invités de la 13e édition du Festival international du film, de la télévision et de la vidéo Fébiofest. Le festival sera inauguré le 23 mars prochain à Prague par la projection américaine Moi, toi et tous les autres de Miranda Julie qui a remporté la caméra d'or au dernier festival de Cannes. Côté météo, ce mardi, le ciel a été couvert avec des précipitations de neige et les températures de moins 4 à 0 degré. Mercredi, ce sera le même scénario, il fera de moins 3 à 1 degré. Des chutes de neige locales sont annoncées. Nous fêterons les Ida. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Segertova.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous. La France a annoncé une levée progressive des restrictions à la libre circulation des travailleurs de nouveaux pays membres de l'Union européenne, dont la République tchèque. Une nouvelle unité de policiers militaires tchèques est partie pour l'Irak. À l'occasion du mois de la francophonie, nous parlerons de l'enseignement bilingue dans des lycées tchèques. La culture russe se présente à Prague dans le cadre de la saison culture en titre de cette édition. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Plusieurs pays d'Europe occidentale se sont récemment résolus à ouvrir leur marché du travail aux Tchèques et à tous les ressortissants des pays de l'Est entrés dans l'Union européenne en 2004. Après l'Espagne, le Portugal et la Finlande, c'est le gouvernement français qui a annoncé ce lundi une levée progressive et maîtrisée des restrictions à la libre circulation. Une annonce suivie de près à Prague, où les médias la considèrent comme une bonne nouvelle, même si la France n'opte pas pour une ouverture totale. Pour parler avec nous de ces décisions, Alexis Rosenzweig s'est adressé à Frédéric Turlan, fondateur d'EuropeNews.com, une agence de veille sociale européenne.
Ce n'est pas complètement une surprise, hein, puisque il y a eu déjà quelques petits ballons d'essai par des communications gouvernementales et des présentations et des discussions, en tout cas avec les partenaires sociaux, sur ce sujet. Donc on sentait qu'il y aurait une volonté un peu d'assouplissement de la position française et pas une simple reconduction des mesures transitoires. Par contre, ce qui surprend, c'est peut-être la demi-mesure qui est prise, hein, puisque pour l'instant, aucun autre pays européen mis à part éventuellement l'Allemagne qui pourrait se diriger vers une solution de ce type-là, mais aucun autre pays européen n'a opté pour une solution mixte. Soit les marchés du travail sont ouverts, comme en Grande-Bretagne, en Suède, ou ce que compte faire la Suède ou l'Espagne ou le Portugal, soit les marchés du travail sont fermés comme précédemment, comme en Belgique ou en Autriche, mais la France se distingue un peu par ces demi-mesures.
Par une position pas très claire, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer en deux ou trois phrases ce que vous avez compris du communiqué du gouvernement français ?
L'idée est un peu de faire coller la position française par rapport à la libre circulation des travailleurs des pays de l'Est avec le projet gouvernemental de mettre en place une politique d'immigration choisie vis-à-vis des ressortissants des pays tiers. Donc, si on applique un système d'immigration choisie par secteur d'activité ou par compétence, je crois qu'il y a le bâtiment ou l'hôtellerie-restauration. Enfin, en tout cas, ce sont tous les secteurs dans lesquels on constate une pénurie de main-d'œuvre, où le nombre d'annonces d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur est jugé trop important par le gouvernement. L'idée de privilégier ces secteurs qui manquent de bras en ouvrant les portes aux ressortissants des pays de l'Est. Apparemment, le gouvernement a choisi un certain parallélisme et d'appliquer ce même type de critères aux ressortissants des pays de l'Est, ce qui est, du point de vue communautaire, assez illogique, mais qui serait en cohérence par rapport à la politique française d'immigration.
Alors, on a vu qu'en France, la quasi-totalité des syndicats s'était prononcée pour la fin immédiate de ces mesures restrictives transitoires. Comment est-ce qu'on explique cela dans un contexte de non au référendum et de peur du plombier polonais? Comment est-ce que les syndicats français se sont finalement décidés à promouvoir cette ouverture?
Je pense que là, ils relayent surtout la position de la Confédération européenne des syndicats, qui était très favorable à l'ouverture et à la suppression des barrières. Peut-être que le rapport de la Commission européenne sur le sujet les a aussi convaincus que l'ouverture des frontières n'était pas un mal et ne risquait pas de perturber gravement le marché du travail national.
Selon vous, qui connaissez bien ces dossiers sociaux, y a-t-il un risque de dumping social en France avec une arrivée de travailleurs polonais ou tchèques?
Non, là, on reste vraiment dans la crainte et dans le fantasme, comme l'histoire du plombier polonais. C'est-à-dire que le dumping social, à la limite, existe déjà. Il suffit pour un ressortissant d'un pays de l'Est de se transformer en travailleur indépendant et d'exercer son activité en France. Je pense pas qu'il y ait de risque de dumping social de façon plus importante qu'actuellement. Il y a déjà des phénomènes de type dumping social qui ont cours, avec des salariés de sous-traitants dans des pays de l'Est qui sont moins bien payés que les ressortissants français, travailleurs français, etc. Donc le risque existe déjà, et c'est juste le mérite de clarifier les choses et peut-être de faire sortir certains travailleurs des pays de l'Est de l'économie grise, en permettant de les déclarer et de les faire entrer dans un circuit du marché du travail normal.
Tandis que la République tchèque a célébré dimanche sa 7e année de présence au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le 10e contingent de policiers militaires s'apprête à s'envoler pour l'Irak. Cette unité composée d'une centaine de soldats poursuit ainsi la mission de l'armée tchèque entamée au lendemain de la chute du régime de Saddam Hussein. Guillaume Narguet.
C'est sous la monumentale statue de Jan Žižka, héros hussite du XVe siècle dans le quartier pragois de Žižkov, que s'est déroulé mardi matin le passage en revue des troupes du 10e contingent de la police militaire. Comme tous les trois mois depuis décembre 2003 et le lancement de la mission, cette centaine d'hommes et de femmes prendra le relais dans le courant de la semaine 9e contingent, basé dans le camp britannique de Shaïba, à proximité de Bassora dans le sud de l'Irak. Avant qu'il ne s'envole, le chef d'état-major, Pavel Shtievka, a rappelé à ses soldats que le service sur place était actuellement tout particulièrement compliqué, dangereux et imprévisible du fait de l'instabilité de la situation intérieure, le pays se trouvant, selon certains observateurs sur place, au bord de la guerre civile. En outre, la récente publication de caricatures du prophète Mahomet dans certains journaux européens a exacerbé la rancune ressentie par la population à l'égard des soldats étrangers. Pour faire face à tous ces dangers, l'armée tchèque envoie cependant des troupes aguerries et expérimentées, puisque les deux tiers de l'effectif du 10e contingent ont déjà servi en Irak. A noter que 6 femmes se sont engagées dans une mission dont le principal objectif est la formation des policiers locaux. Par ailleurs, cette mission, s'inscrivant dans le cadre de la collaboration avec la force multinationale dirigée par les États-Unis, elle n'est pas placée sous le contrôle du Conseil de l'Atlantique Nord. Ce changement de statut est toutefois envisagé et devrait se concrétiser dans un proche avenir. À la demande du gouvernement irakien, l'OTAN a en effet établi en juillet un centre de formation pour les responsables de la sécurité et de la défense dans la banlieue de Bagdad, et une collaboration renforcée avec les alliés permettra donc de renforcer l'assistance internationale afin d'aider l'Irak à mieux assurer sa sécurité.
Enseignement bilingue francophone en République tchèque est le nom d'une exposition qui a été inaugurée ce lundi soir sur le sol du Parlement tchèque et qui présente les sections franco-tchèques dans les lycées. Alena Gebertova.
Výuka francouzštiny si zaslouží a potřebuje také tu podporu politickou.
L'enseignement du français a besoin d'un soutien politique. La Chambre des députés est un endroit approprié pour souligner l'importance de cet enseignement. C'est par ces paroles que Michala Choydrova, députée du Parti chrétien-démocrate, a introduit un séminaire consacré aux sections bilingues des lycées tchèques qui s'est tenu en présence de leurs directeurs et d'enseignants du français avant l'ouverture de l'exposition. Prague, Brno, Olomouc, Písek et Tábor. Autant de villes tchèques dans lesquelles ces lycées sont implantés, leur création remontant au début des années 90. Alena Štěrbová, vice-ministre de l'Éducation, précise.
Nous avons vraiment une histoire longue d'une quinzaine d'années. Il faut apprécier le travail, les résultats, parce que les bacheliers trouvent partout à travers l'Europe, à travers les pays européens, la possibilité de continuer leurs études aux universités, de trouver le travail très très intéressant dans des entreprises tchéco-françaises, pas seulement en Tchèque, mais aussi en France. Je suppose que cette histoire va continuer.
Vous-même, à ma connaissance, vous savez enseignant d'heure de Prague, dans le sud de la Bohème. Vous avez participé à la création d'un tel lycée?
J'ai pas participé, mais j'ai travaillé, surtout j'ai suivi la formation continue des professeurs de la langue française, parce que moi, j'ai fait mes études à l'université de lettres, la littérature, la langue française et le latin. Ce n'était pas un travail si facile. Vraiment, au début, il a fallu pas seulement étudier la langue, mais aussi les matières en français, comme l'histoire, la géographie. Et nous avons suivi les séminaires, les conférences, les stages ensemble.
Est-ce que les lycées bilingues ont assez d'enseignants du français qualifiés?
Oui, c'est toujours comme ça, parce que la langue française, c'est vraiment un amour pour toute la vie. Je regarde toujours auprès de mes collègues enseignants de la langue française l'enthousiasme, vraiment l'amour de la culture, des relations franco-tchèques, toujours l'appréciation de l'histoire de la France, de la Belgique, des pays francophones. C'est vraiment une grande force qui nous unit ensemble.
Et M. Joël de Zorzi, ambassadeur de France, de se joindre à la cacophonie des voix saluant l'enseignement bilingue francophone en République tchèque.
Ce système pédagogique est ici mis en œuvre de manière exemplaire. J'en ai d'ailleurs souvent la confirmation lorsque je me rends dans ces établissements. Et je suis à chaque fois enthousiasmé par la faculté d'innovation de ces écoles, la qualité remarquable des enseignements, pour certains d'entre eux, la modernité de leurs infrastructures.
Tak chyť mi ten sen a přejít za volem a odpust mi vše na nic víc.
L'exposition présentée dans les locaux de la Chambre des députés s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie.
Kde teď můžeš být, že nesedíš vedle mě, až tě dnes potkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak nád jiná, zamilovaná. Jen z rádia těší nás předpovědí počasí.
Comme je vous ai dit en titre, Prague et d'autres villes tchèques accueillent la manifestation culturelle qui s'appelle la Saison russe. Elle a débuté le 1er mars à l'occasion de la visite du président russe Vladimir Poutine à Prague et doit se poursuivre jusqu'à la mi-décembre. La Saison russe 2006 renoue avec les éditions précédentes organisées depuis 1991 déjà dans notre pays. Selon la commissaire du projet Katerina Novotna, la culture russe se présente sous ses facettes traditionnelles, dont en premier lieu le ballet et la musique, mais aussi par sa création contemporaine très peu connue dans notre pays. Le public pourra assister aux projections de films historiques russes inédits. L'un des points forts, la série de concerts donnée au mois de mai par l'ensemble de danse et de chant Alexandrovtsi. La commissaire espère que la manifestation connaîtra un succès parmi les artistes tchèques pour lesquels ce sera une occasion d'établir des contacts et de se présenter lors d'une manifestation réciproque en Russie. Elle espère aussi que l'ensemble du programme attire jeunes pour lesquels la culture russe ne rêvait pas la connotation négative de l'ère soviétique. Dans le cadre de la saison russe, plus d'un millier d'acteurs et danseurs se présentent à Prague, Český Krumlov, Brno, Příbram, Ostrava, Pardubice et autres villes. Le mois de mars est placé sous le signe du Printemps slave 2006, une manifestation réservée à la création musicale, théâtrale et plastique de la jeune génération russe. Dans son cadre, trois concerts caritatifs seront donnés à la clinique psychiatrique de Červený Dvůr, en Bohême du Sud, pour les jeunes patients souffrant de différents types de dépendance. La saison russe est soutenue par le ministère tchèque de la Culture qui couvre près de 20% des frais, le reste est financé par les sponsors. À noter qu'à l'occasion de l'inauguration officielle de la saison russe, le ministre tchèque de la Culture, Vítězslav Jandák, a restitué à la partie russe un tableau du 19e siècle, tête de paysan, du peintre russe Ivan Nikolaevich Kramskoy, volé en Crimée par des soldats allemands pendant la guerre et devenu ensuite propriétaire de la galerie Morave de Brno. C'est tout dans ces faits événements. Merci de votre attention. Le programme sur Radio Prague continue.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Eh bien, ce n'est pas la coutume, mais dans ce 73 de Radio Prague, j'ai au micro deux auditeurs de Belgique, au micro du 73.
Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Oubé Carnot et j'habite Anguille en Belgique.
Et son petit frère, Maxime.
Si j'ai bien compris, nous avons un peu parlé avant, vous êtes arrivé à l'écoute des ondes courtes, revenons un peu dans le passé, grâce à votre père. Alors comment ça s'est passé? C'était un de nos auditeurs, certainement.
Ma relation avec Radio Prague, si on peut s'exprimer ainsi, elle date depuis très 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 longtemps. Mon père a démarré les écoutes de Radio Prague il y a une bonne quarantaine d'années avant les événements. Et en étant très jeune, aux alentours de 2, 3, 4 ans, j'avais toujours tendance à me rapprocher de lui quand il écoutait son poste qui faisait des grésillements, des craques. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait écouter des stations qui étaient relativement lointaines, la Pologne, la République tchèque et autres. Et ça m'est un petit peu passé jusqu'à mes 12, 13 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, bien, soyons fous, achetons un poste. J'ai acheté une radio de courte et depuis ce moment-là, je suis toujours fidèle à la radio.
On revient vraiment à la question fondamentale entre radio-écouteurs. Pourquoi on écoute en fait? Pourquoi il y a des gens qui écoutent les ondes courtes? C'est pas super qualité, des fois ça disparaît, etc. Quel est l'intérêt en fait, à part le fait que certaines personnes le font par, je sais pas, radio-amateurisme, on est un peu amené. Vous non, c'est votre père qui écoutait, donc vous êtes arrivé à long À la longue courte, on peut dire en écoutant ce qu'écoutait votre père.
Je crois qu'il y a un petit peu de folie dans tout ça. Hein. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique, d'écouter des radios, d'aller chercher vraiment des radios dans le bruit de fond, et se dire, ah, cette radio qui est lointaine, qui est peut-être à 5 000, 10 000, 15 000 kilomètres de chez moi, j'ai pu l'entendre, avec des moyens de réception qui sont, dans la majorité des cas, relativement simples. Pour moi, c'est beaucoup plus sportif d'écouter des radios étrangères en ondes courtes, voire même parfois en ondes moyennes ou en ondes longues, que d'avoir une certitude d'écoute en allant faire une connexion sur Internet pour obtenir la station. C'est la méthode la plus simple, la plus efficace et quasi avec certitude de pouvoir écouter des stations dans le monde entier. En Europe, on n'a pas trop de problèmes pour avoir des accès à des liaisons par Internet à débit relativement élevé, mais il faut un petit peu relativiser, parce que bon, l'Europe, ce n'est pas le monde entier, on peut se retrouver en Afrique ou bien en Amérique du Sud, et là, la connexion Internet par haut débit, je crois que vous pouvez l'oublier. La radio en ondes courtes, portative, c'est tout petit, on part en vacances avec, et on garde un contact avec l'étranger, dans le cas où on écoute Radio Prague, son pays, quand on écoute sa station locale, émettant par ondes courtes. L'avantage aussi, pour moi, c'est que ça me fait voyager tant d'un point de vue historique que géographique, et j'apprécie beaucoup, en parallèle à l'écoute, bien de recevoir les petites documentations, les fréquences ondes courtes, une carte de géographie d'un pays, et pour mon cas, la collection des cartes QSL.
Les cartes QSL, le côté sportif, est-ce que quand même le contenu des émissions attire aussi?
Bien sûr, il faut pas... La carte QSL, soit en général, c'est ce qu'on obtient pour une confirmation, qu'on envoie à la station de courte, avec en général ce qu'on appelle un rapport d'écoute, ce qui permet de donner aux journalistes un point de vue des gens qui écoutent les émissions. C'est le but. Un journaliste qui fait une émission, bien, il ne la fait pas pour lui, il va la faire pour les auditeurs, pour les auditrices. Et le journaliste, il aime bien avoir un feedback, une mise à jour, une vérification des contenus de ses émissions. Est-ce qu'on a aimé? Pourquoi est-ce que c'était intéressant? Éventuellement, pourquoi est-ce qu'on était moins intéressé par tel type d'émission ou d'une autre?
Et justement, ce qui nous intéresse le plus, et on le répète, disons, à longueur de fréquence ou d'heure, d'horaire, c'est que le plus intéressant, en fait, pour nous, après avoir fait notre travail, comme vous nous le dites, c'est de recevoir, disons, les commentaires, les observations, les critiques éventuelles. Et je le répète assez souvent, même dans cette émission, il ne suffit pas de nous envoyer le rapport d'écoute en nous disant « bon, j'ai écouté à telle et telle heure, sur telle et telle fréquence, avec un sympo, telle et telle ». Ce qui nous intéresse encore plus, c'est d'avoir le commentaire, éventuellement surtout le contenu de l'émission, en bref quand même, parce qu'il arrive que quelqu'un écoute une émission et en fait c'est pas Radio Prague. On peut seulement le vérifier par le contenu, on ne peut pas le faire autrement. Et disons, les observations, tout ça, ça sert en fait à améliorer l'émission, à savoir ce que veut le public, à ce que veut le radio-écouteur.
C'est très clair, c'est le but du jeu. Un journaliste qui crée une émission pour laquelle il n'a jamais de commentaires, c'est pas très motivant. C'est vrai que si moi je devais faire une émission comme vous, j'aimerais bien recevoir des tonnes de courriers et passer mon temps à consulter les lettres et voir un petit peu ce que les autres en pensent. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'on a pas nécessairement une quantité énorme de courriers arrivant à Radio Prague, qu'on n'a pas des gens qui écoutent.
Voilà, ça c'est toujours
malheureusement,
le problème.
Il faudrait un petit peu donner un coup de pied dans la fourmilière pour que les auditeurs se bougent un petit peu. Et n'oublions pas qu'une station onde courte qui ne reçoit pas de courrier, bien, c'est éventuellement une station onde courte qui pourrait avoir des budgets réduits. Et comme on a déjà vu dans certains cas, malheureusement...
Comment motiver justement les jeunes à l'onde courte et pourquoi? Et comment faire pour que justement les stations reçoivent plus de courriers éventuellement?
Bien, je crois que pour les jeunes, ça n'est pas une partie gagnée d'avance. Hein. On est dans la génération...
Qu'est-ce qui peut les attirer, voilà.
Internet et GSM, on est sûr que ça fonctionne. C'est pour moi plutôt de la génération presse-bouton. D'un point de vue purement personnel, moi ce que j'essaie de faire, vu ma formation d'enseignant, dans les sections secondaires et inférieures en Belgique, j'essaie toujours dans mes différents cours de titiller un petit peu comme ça l'esprit par rapport aux ondes radio de mes étudiants et de mes élèves, en faisant des recherches, par exemple, sur Internet, pour tomber sur des sites de radio ondes courtes et voir, ah, si j'ai envie de connaître plus un pays d'un point de vue touristique, d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue musical ou autre, quels sont les moyens que je mets en œuvre pour pouvoir parfaire ma connaissance? C'est vrai qu'Internet, bon, c'est pratique, c'est bien, mais c'est pas la panacée, c'est pas la solution idéale à toutes les situations. Et avec les gens que j'ai au cours, j'essaie toujours d'avoir pour la fin d'année au moins une ou deux personnes qui sont converties à l'écoute radio et aux ondes courtes en particulier, pour capter de manière plus correcte les stations radio qui seraient assez lointaines.
Et si vous voulez, maintenant, vous pouvez saluer tous les auditeurs à l'écoute au nom... En votre nom, au nom du club, je sais pas.
Eh bien, si j'ai des élèves qui m'écoutent, 73 heures, évidemment, comme on est dans l'émission. Bonjour aussi, évidemment, à tous les amis du Radio Club et à toutes les personnes qui sont à l'écoute, que ce soit en Belgique, à Prague ou à l'étranger.
Sur ces paroles encourageantes à l'écoute de Radio Prague, nous terminons notre émission en langue française.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 Hz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 21745 kHz, at 2100 hours on 50 kHz, at 2230 on 5930 kHz, at 2330 on 5930 or 7345 kHz, at 0100 hours on 6200